Chapitre 2. Une amitié avec Dieu progresse quand nous sommes à l'aise devant lui. Le message de la bonne nouvelle peut se résumer ainsi. Grâce à l'œuvre complète de Jésus, l'être humain, esclave du péché et en route pour la perdition, peut être pardonné, rendu juste et vivre désormais en ami de Dieu. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Luc 1, versets 73 à 75. Jésus, mourant sur la croix, a déclaré « Tout est accompli ». Il affirmait ainsi que l'accès au Très-Haut était ouvert. Au même instant, le rideau du temple séparant le lieu saint du lieu très saint se déchirait du haut en bas, en signe visible d'une alliance nouvelle, supérieure à l'ancienne. Dans cette dernière, le péché était couvert. Dans la nouvelle, il est ôté. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus nous offre plus que le pardon au sein du péché. Il nous pardonne et nous sauve du péché. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Cette compréhension encourage et facilite une vie de victoire. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de combattre le péché de l'extérieur que de l'intérieur. Pour le disciple de Christ, le péché n'est plus une habitude, mais un accident de parcours. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Il ne vit plus en suivant ses convoitises, mais selon l'Esprit Saint qui le remplit et le conduit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Romains 8, verset 6. Paul, s'adressant aux nouveaux croyants, introduisait la plupart de ses lettres ainsi. Aux saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Philippe, aux saints et fidèles qui sont à Colosse, etc. Malheureusement, trop de chrétiens se comportent comme si leur péché était couvert et uniquement couvert. Ils n'ont pas saisi toute la portée de la bienveillance divine à leur égard et ses implications. Deux obstacles les privent encore de l'intimité de Dieu, ternissant leur filiation. Le péché et la culpabilité. Pour être pleinement à l'aise, ces écueils doivent être écartés. Un abandon complet de toute rébellion est la réponse normale à la bonté de Dieu. Cette dernière nous pousse à changer radicalement de comportement. C'est ce que la Bible appelle la repentance. La question du péché est primordiale. Il nous faut la résoudre. Christ nous éloignera du péché, ou le péché nous éloignera de Christ. Les deux ne peuvent cohabiter. Jésus était l'ami des pécheurs, non du péché. Son ministère envers eux n'avait pas pour objectif de les conforter dans leur style de vie, mais de les faire entrer dans la vraie liberté qu'apporte la vérité. Sur ce sujet, il est aisé de se perdre dans des théories complexes et pesantes. Pourtant, chaque fois que Dieu en parle à un peuple ou à un individu, le mal est clairement dénoncé, et la démarche à faire pour s'en détourner est précise. Le prophète Ésaïe, alors qu'il contemple la sainteté de Dieu, s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. Purifié, il déclare par la suite « Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. » Ésaïe 59, versets 1 et 2. Vivre selon les standards contemporains de moralité n'est pas difficile. Les maîtres à penser que les hommes se plaisent à écouter justifient leurs mœurs et leurs désirs. En d'autres termes, l'homme naturel ne conforme pas sa vie à la justice, mais il tente d'adapter cette dernière à son mode de vie. Jésus souligne qu'aimer celui qui nous aime est naturel, mais aimer son ennemi, c'est vivre en phase avec le cœur de son Père. En règle générale, c'est peu de temps avant sa conversion que l'homme est confronté aux critères bibliques. Il s'aperçoit qu'il transgresse toutes les lois divines. Il est meurtrier par sa haine, menteur dans ses paroles et ses attitudes. Il convoite, jalouse, louvoie pour ses intérêts personnels, et ainsi de suite. Il comprend qu'il s'est réservé non pas une place au ciel, mais en enfer. À ce stade, certains tombent dans le légalisme, accumulant des listes sans fin d'obligations et d'interdictions. D'autres optent pour une grâce à bon marché, sans racine ni vraie repentance. Ils prétendent que le péché est humain, qu'ils n'y peuvent rien, mais espèrent que Jésus sera leur passeport pour le ciel. D'autres encore s'emploient à étouffer leur conscience. Finalement, beaucoup errent dans des doctrines aussi compliquées qu'inefficaces. Tout cela n'est satisfaisant ni pour Dieu ni pour eux-mêmes. Une réponse correcte à l'œuvre de Christ et à son appel est vitale pour une alliance solide. Que faire? Jean-Baptiste, puis Jésus, Pierre et Paul ont tous donné le même message à ceux qui cherchaient Dieu. Repentez-vous. Matthieu 3, verset 2, 4, verset 17, Acte 2, verset 38, 17, verset 30. Une repentance mal comprise, incomplète ou bâclée, aboutit à une vie chrétienne terne qui évolue perpétuellement dans l'ombre d'une semi-culpabilité. Cette dernière dérobe toute joie et toute assurance devant Dieu et devant les hommes. Vivre un culte personnel dans cet état, c'est planifier la morosité. N'en prenez pas ou n'en prenez plus le chemin. Au travers des écoles d'évangélisation que j'ai dirigées, j'ai eu le privilège de bénéficier de l'enseignement d'orateurs de valeur venus de 5 continents. Leurs témoignages sont d'autant plus intéressants qu'ils convergent et démontrent l'universalité de la réponse aux cris de l'homme. La paix et l'intimité avec Dieu dans la durée sont-elles possibles? Oui, la voie est étroite, parfois intimidante, escarpée, mais elle existe. Le roi David l'avait trouvée. « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Psaume 16, verset 11. Je vous livre ici ce qui m'a véritablement aidé dans la lutte contre le péché et la culpabilité. Les grands nettoyages au sujet du péché. Dieu, en Christ, a fait sa part. Il a pris l'initiative de la réconciliation alors que nous étions encore ses ennemis. Maintenant, pour vivre en ami ou amie de Dieu et le rester, 3 responsabilités fondamentales nous incombent. Considérons-les attentivement. 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. 2. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Marc 11, verset 25. 3. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Matthieu 5, versets 23 et 24. Les grands nettoyages consistent donc à confesser nos péchés, pardonner à ceux qui nous ont blessés, demander pardon à ceux que nous avons offensés et réparer nos torts dans toute la mesure du possible. Confesser nos péchés. Les formules creuses ne sont d'aucune utilité, l'important étant de réellement marcher dans la vérité. Cela signifie que notre personnalité tout entière doit être impliquée dans le processus de la repentance. Le péché nous fait gaspiller beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Il affecte ce que nous avons de plus précieux, nos relations et parfois notre santé. N'est-il pas normal de le confesser clairement, Nommément, sérieusement, devant Dieu plutôt que de marmonner des mots expéditifs et superficiels. Par mon intelligence, je prends conscience que le péché est néfaste, stupide, grave. Je prends le temps de nommer devant Dieu chaque péché dont je suis conscient, sans faux fuyant, orgueil, mensonge, fantasme, mesquinerie, puis de lui en demander pardon. Je ne me justifie pas, mais reconnais ma pleine responsabilité. Ma tristesse, intérieure ou apparente mais bien réelle, manifeste mon émotion face au gâchis que j'ai provoqué. Par ma volonté, je me détourne de ce mode de vie, saisis le plein pardon de Dieu et la justice de Christ. Pardonner. Pardonner est loin d'être facile, ce n'est ni naturel ni automatique. Pourtant, Jésus a certifié que son Père ne pardonne pas à ceux qui ne pratiquent pas le pardon. Je vous encourage à vous arrêter quelques instants devant la liste qui suit et, en communion avec Christ, à prononcer à haute voix votre pardon envers les personnes concernées. Exprimez clairement ce que vous pardonnez. Vos émotions prendront du temps pour guérir, des bouffées de colère ou d'amertume se manifesteront encore parfois. Ne vous en inquiétez pas outre mesure, car l'essentiel est votre choix. J'accorde mon pardon à X pour ceci ou cela. Je remets toute justice entre tes mains, Seigneur. Pour ma part, je choisis désormais, en acte et en pensée, le meilleur pour cette personne. Si cette dernière est décédée, prononcez également devant Dieu votre pardon à son égard. Si vous n'arrivez pas à pardonner, priez ainsi. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à X, mais je veux lui pardonner. Viens mettre ton pardon dans mon cœur. Réflexion. Ai-je accordé mon plein pardon à mes parents, à mes frères et sœurs, à mon conjoint, à mes enfants, à ma parenté, à mes voisins, à mes camarades d'école, anciens ou actuels, à mes maîtres et professeurs, anciens ou actuels, à mes collègues et relations de travail, à mes anciens, anciennes, petits, petites amis, amis eux, aux dirigeants politiques, à mes responsables spirituels, à mes frères et sœurs en Christ, aux personnages influents ou célèbres, aux autres personnes proches ou éloignées, contemporaines ou non, à moi-même. Réparer un tort. Les sots n'estiment pas nécessaire de réparer un tort, mais entre les hommes loyaux règne la bonté. Proverbe 14, verset 9. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Proverbe 16, verset 6. Je me souviens d'une journée bien particulière de ma scolarité. Notre professeur de français estimait que la meilleure méthode pour nous faire retenir l'orthographe consistait à nous laisser corriger nous-mêmes nos copies, puis à comptabiliser nos fautes. Plusieurs élèves en profitaient pour tricher et recevaient ainsi une notation jusqu'à 2 fois meilleure que ce qu'ils auraient mérité. Un jour, à notre grande surprise, notre maître ramassa immédiatement nos cahiers et corrigea lui-même la dictée. Les notes de plusieurs s'effondrèrent. Le lendemain, rouge de colère, il apostropha longuement la classe entière. Ils se sentaient trahis. Durant la pause qui suivit, la quasi-totalité des élèves tinrent conseil. Ceux qui avaient triché, et la plupart des autres élèves par solidarité, se rendirent à la salle des maîtres pour lui demander pardon. Sur le plan international, nous assistons également à des demandes de pardon. Toutes ne sont pas aussi profondes et sincères qu'elles devraient l'être, mais il n'en reste pas moins que ces démarches, accomplies parfois après des siècles d'attente, sont d'une extrême importance. Les peuples et les gouvernements qui refusent de s'humilier pour des faits connus et établis sont, eux, regardés comme hypocrites, entêtés et méprisables. Pour ma part, j'étais engagée dans la foi depuis plusieurs années quand j'ai compris que je devais faire le ménage dans mes relations. Je me suis mise à genoux avec papier et crayon et me suis engagée devant Dieu à demander pardon à ceux que j'avais offensés. J'ai ensuite écrit ou parlé à plusieurs amis d'enfance et suis allé trouver de nombreuses autres personnes pour reconnaître et confesser insultes, dégradations, mauvaise foi. Cela a été parfois très difficile, par exemple envers mes parents et des connaissances proches, ou impressionnant envers des personnes en position d'autorité. Ces actes de restitution ont été l'une des étapes importantes de ma vie nouvelle en Christ. Jugez-en par vous-même. Est-il concevable de se convertir, de l'annoncer à son entourage tout en laissant derrière soi une traînée d'injustice, de vol et parfois d'abomination non reconnue et non confessée? Êtes-vous prêt à faire le pas? Demander pardon à Dieu est la première étape, mais elle est intimement liée à une démarche semblable envers les personnes lésées. Nous pouvons résumer la démarche ainsi. Si j'ai offensé Dieu seul, je lui en demande pardon. Si j'ai offensé une personne, je demande pardon à Dieu et à la personne concernée. Si j'ai offensé un groupe de personnes, je demande pardon à Dieu et au groupe concerné. Quand Nicky Cruz, ex-chef de gang new-yorkais, et sa bande sont allés au poste de police pour rendre leurs armes, les agents n'en croyaient pas leurs yeux. C'est bien ces actes de justice, de mise en ordre, appelés dans l'Écriture « fruit de la repentance », qui attestent d'un authentique changement de vie. Ce qui a peut-être le plus contribué à la conversion de celle qui est devenue mon épouse, c'est de voir son frère restituer les objets qu'il avait dérobés dans les magasins, être prêt à rembourser les préjudices et à assumer les éventuelles poursuites. Comment demander pardon? Quand vous avez décidé de réparer une faute, faites-le. Avec simplicité, dites par exemple, « J'ai décidé de mettre ma vie en ordre, c'est moi qui ai crevé les pneus de votre voiture l'an dernier. » J'en suis sincèrement désolé et je suis venu vous demander pardon et rembourser vos frais. Ou, je ne peux vous rembourser en une seule fois, mais je m'engage à le faire en partie maintenant, puis par mensualité. Avec honnêteté, je fais partie de ceux qui ont entraîné votre fils dans la drogue. J'en suis aujourd'hui très triste, j'en ai honte et vous demande sincèrement pardon. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je voulais que vous sachiez que je reconnais mes torts et que je ferai tout à l'avenir pour mener une vie différente. N'appelez pas votre faute une faiblesse. Nommez votre péché par son nom. Je vous ai menti, je vous ai volé. Ne vous excusez pas, demandez pardon. Avec humilité, ne mettez pas votre expérience spirituelle en avant, mais honorez plutôt ceux que vous avez offensés. Ils en seront touchés. Lors d'une campagne de Billy Graham à Sydney, un homme qui avait détourné une grosse somme d'argent de la banque qu'il employait s'avança devant l'estrade. Bien que personne n'ait remarqué son escroquerie, il se dénonça le lendemain à son directeur et proposa de tout rembourser, malgré le licenciement et la persécution qu'il aurait à affronter. Le directeur fut à ce point impressionné de la transformation qui s'était opéré dans le cœur de son employé, que non seulement il lui conserva son poste, mais il assista à la campagne le lendemain soir et donna sa vie à Christ. Dans l'immense majorité des cas, votre démarche sera appréciée. Il peut cependant y avoir des réactions négatives, et vous devez être prêt à les assumer. Dans les cas les plus graves, il sera bon de chercher conseil auprès de personnes mûres en Christ avant d'agir. Quand ne pas demander pardon? Notre restitution doit toujours avoir en vue la réparation, la guérison et le bien de notre prochain. Initier cette démarche égoïstement, dans le seul dessein de faire taire sa conscience, sonnera faux. Je demande pardon à une personne parce que je regrette de lui avoir fait mal. S'il s'agit d'une mauvaise attitude dont elle ne s'est pas rendue compte, il est insensé de la lui confesser. Ce serait provoquer une blessure au lieu d'apporter une guérison. Voici quelques exemples à ne pas suivre. Je te demande pardon parce que je ne t'aime pas. Je te demande pardon parce que je t'en ai voulu pendant des années. Ou encore, je te demande pardon pour les insultes que je t'ai adressées, mais reconnais que tu as fait bien pire à mon égard. Non, ne mélangeons pas tout. La restitution consiste à réparer ce qui peut l'être. Ne la confondons pas avec un déballage malsain, le fait de reprendre quelqu'un ou de lui faire un procès, petit ou grand. Soit nous confessons notre part, laissant à la partie adverse la responsabilité, s'il y a lieu, de s'humilier à son tour, soit nous décidons de reprendre franchement celui qui nous a offensés. S'il s'agit d'un conflit, il nous faudra peut-être l'aide d'une tierce personne choisie par les deux parties et un désir sincère de réconciliation. Une saine restitution doit être claire et contribuer à la guérison de la relation. Celui qui restitue ne recommence pas de sitôt. Avoir pour principe de demander pardon à ceux que nous lésons nous garde d'une multitude de péchés. J'étais en vol pour une mission en Afrique. Je ne sais pas pour quelle raison, alors que je me trouvais devant le lavabo des toilettes, je me suis soudain irrité au point d'envoyer un coup de pied bien appuyé droit devant moi. À ma stupéfaction, j'ai senti la paroi céder instantanément. Je me suis aussitôt vu en train de confesser ma faute au chef de cabine. Belle image d'un missionnaire en colère qui brise une cloison dans les toilettes d'un avion. Consterné, honteux, je me suis baissé pour évaluer les dégâts. Ce n'était qu'un petit placard qui s'était ouvert sous le choc, sans autre conséquence. Quel soulagement, quelle délivrance! Je peux vous certifier qu'après cette expérience, je n'ai plus jamais recommencé. Demander pardon à ceux que nous lésons est absolument normal. Les couples, les églises, les voisins qui ne le pratiquent pas vivent des relations ternes, remplies de non-dits, de craintes et de suspicions. Quand les nouveaux convertis sont enseignés sainement à pratiquer la restitution, la solidité de leur conversion et le respect de leur entourage sont considérablement renforcés. La crainte de Dieu réapparaît, et même les malfaiteurs commencent à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Assurez-vous, une fois pour toutes, que votre passé est nettoyé. Adoptez dès à présent une vie de sanctification où toute offense ouverte envers quiconque est confessée. Jésus a dit, « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. » Jean 13, verset 10. Le bain peut se comprendre comme le grand nettoyage initial, se laver les pieds comme un style de vie pour marcher dans la sainteté. Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter les péchés que vous confessez et abandonnez, les personnes auxquelles vous pardonnez, les personnes auxquelles vous demanderez pardon. Que faire de nos faiblesses de caractère? Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajoutez la maîtrise de soi. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Louis Palot, s'adressant à 4000 évangélistes, a donné une parole courageuse et salutaire en dénonçant les trois tentations principales attachées à ce ministère. L'orgueil, l'amour de l'argent et la séduction sexuelle. Son message se voulait préventif, cherchant à initier un travail conscient et honnête, faites tous vos efforts, de sanctification, de consolidation, de recherche de la crainte de Dieu pour affermir une marche dans la lumière. J'ai parlé de mon livre « Comment réussir son mariage », des zones rouges qui affaiblissent l'amitié dans le couple, de la manière de les identifier et de les soigner. Il en est de même pour nos faiblesses chroniques. Elles peuvent être traitées et réformées. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Dieu est d'accord de nous transformer. Si nous le sommes également, ce sera plus rapide et beaucoup moins douloureux. Une adolescente alla trouver son pasteur en lui déclarant « Dieu ne me parle jamais ». Il lui répondit « Désires-tu qu'il te parle dans les 5 minutes qui viennent ? Retire-toi seul et demande-lui « Seigneur, qu'aimerais-tu changer de mon caractère ?» La jeune fille releva le défi. Le Seigneur également. Il existe des questions qu'il aimerait bien que nous lui posions. Discerner nos forces, nous en réjouir ainsi que reconnaître nos carences pour en guérir, représente un grand pas vers le chemin de la maturité. Rien n'est plus difficile à changer qu'un être humain ignorant ou fier de ses travers. Telle personne sera très serviable, mais d'une curiosité malsaine. Tel autre sera d'un tempérament joyeux, mais instable ou terriblement colérique. Il ne s'agit plus ici de confesser nos péchés, mais de traiter nos tendances coupables. Bassesse, complaisance, partialité, maniaquerie, lâcheté, médiocrité, désordre, bavardage, apathie, étroitesse d'esprit, avarice, pensée coupable et bien d'autres choses qui doivent être identifiées. Cela fait, la guérison pourra commencer. Ces faiblesses seront comme baignées devant Dieu, c'est-à-dire soignées tel un membre convalescent. Elles seront l'objet d'une prière attentive et fervente. En collaboration avec le Saint-Esprit, nous nous en éloignerons en nourrissant une nouvelle attitude. Une personne avare, par exemple, mettra un soin particulier à donner. Un homme facilement impur dans son regard prendra l'habitude d'éteindre son poste de télévision dès qu'une image suggestive apparaîtra. Une personne bavarde se fixera des objectifs pour garder le silence et écouter. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, affirme l'Écriture. 1 Corinthiens 11, verset 31. Il ne s'agit ni de se morfondre, ni de pratiquer une introspection malsaine, mais d'exposer au soleil de justice nos défaillances pour qu'il les métamorphose. Cela nous concerne tous. Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter vos points forts, c'est-à-dire vos dons naturels et spirituels pour lesquels vous êtes reconnaissant et que vous mettez au service de Christ. Vos faiblesses, que vous exposerez régulièrement par la prière au soleil de justice, au niveau de vos pensées, de vos habitudes, de votre caractère, de vos manquements. Les grands nettoyages au sujet de la culpabilité. Examinons brièvement les deux sources principales de culpabilité pour mieux les traiter. Notre conscience. Elle est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Proverbe 20, verset 27. Elle compare ce que nous savons être juste avec ce que nous vivons concrètement. Satan, il est décrit comme l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Il est jaloux de nous, de notre vocation, de notre position de fils et de fille de Dieu dont nous portons l'image. Cela lui est insupportable. Comme diviseur, il accuse Dieu devant les hommes et accuse les hommes devant Dieu. Vous sentez-vous constamment coupable? Vous réveillez-vous la nuit sous le feu de reproches? Nier ou agir. Les philosophies contemporaines nous proposent grosso modo deux solutions. Satan n'existe pas et le péché, s'il existe, n'est pas si grave. Ces pensées engendrent une société permissive qui dérape vers l'anarchie. Nier l'existence du malin, c'est lui faciliter la tâche. Étouffer notre conscience équivaut à débrancher l'alarme incendie, en espérant que le feu s'arrêtera avec elle. Un chirurgien, qui peut sauver son patient en lui retirant une tumeur maligne, opère. Il ne dit pas que le cancer n'existe pas ou que les symptômes passeront d'eux-mêmes. Identifier le mal pour l'enlever est un acte d'amour. Sans obéissance, la délivrance de la culpabilité est une illusion. Le roi David a vécu plusieurs mois avec un adultère et un meurtre sur la conscience. Que vivait-il alors? Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. J'étais épuisé, comme une plante au plus chaud de l'été. Psaume 32, versets 3 et 4. D'autres versions ajoutent « Je gémissais toute la journée, mes os se consumaient. » Hier comme aujourd'hui, la solution biblique au péché exige un changement d'habitude et de mentalité. Les doutes ou la foi. Souvenons-nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. nos péchés avoués, Dieu certifie notre pardon. Malgré cela, trop souvent, notre conscience et le diable semblent former une coalition pour nous persuader du contraire. Allons donc, tu n'es pas vraiment pardonné, c'est impossible. Le doute, une fois installé, nos sentiments s'enflamment dans le même sens. Que faisons-nous alors? Au lieu de croire Dieu, nous lui demandons une deuxième fois pardon, et comme cela ne change rien, nous entrons dans une litanie digne du plus grand paganisme. Nous nous habituons ainsi à passer nos journées dans une semi-culpabilité. Que faire? Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Matthieu 6, verset 7. Croire Dieu, c'est-à-dire dans ce cas saisir son pardon, est fondamental. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. 1 Jean 3, verset 20. Je décide de croire celui qui est plus grand qu'eux. Sa parole devient ainsi l'étalon de notre cœur et de notre conscience, et non l'inverse. Si le diable et nos pensées continuent de nous accuser pour une faute confessée, ne leur donnons pas raison. Éduquons notre conscience à s'aligner sur la parole, nos sentiments suivront. Quant à l'accusateur, souvenons-nous que, si son mensonge est accepté, il aura autorité sur nos pensées. Mais identifié comme imposture, il s'écroulera tel un château de cartes. Si je veux la paix intérieure, je dois cesser de tendre un plateau d'argent aux missives du diable et les renvoyer à l'expéditeur. Quand il nous interpelle en disant « Dieu a-t-il réellement dit ? Es-tu vraiment pardonné ?» résistons-lui avec une foi ferme, appuyée sur la parole. Nos journées ne seront plus alors une lutte constante contre la culpabilité, mais elles respireront la liberté. Réflexion. Jésus a fait une œuvre complète et suffisante à la croix pour me sauver du péché et me délivrer de la tyrannie de la culpabilité. Ce ne sont pas la confession de mes péchés et le pardon que j'accorde ou que je demande qui me rendent juste, c'est Christ. Mes actes de repentance sont une réponse à sa bonté. Romains chapitre 2 verset 4. Ils sont adoptés comme style de vie chaque fois que cela est nécessaire. La foi en son pardon et au don de sa justice me préserve d'une culpabilité maladive et me permet de rejeter les accusations du diable. Il y a un bonheur profond à marcher par l'esprit dans l'assurance d'être pardonné. Rester pur au quotidien. C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. La sainteté se vit, se cultive et s'affermit au quotidien. Prenons l'exemple de la journée ordinaire d'un chrétien âgé de 19 ans que nous appellerons Freddy. Apprenti menuisier, il est l'aîné de trois garçons et vit encore chez ses parents. Comme à l'accoutumée, sa journée commence par un temps d'amitié avec Dieu. Son petit déjeuner avalé, il enfourche sa mobylette pour se rendre à son travail. Le trafic est dense. Au milieu d'un grand carrefour, le véhicule qui le précède cale et le met dans une posture plus qu'inconfortable. Autour de lui, ce n'est que stress, concert de klaxons et mauvaise humeur. Personne ne le remarque, mais Freddy se sent humilié. Ses pensées se bousculent. Il sent l'exaspération monter en lui et aurait bien envie d'envoyer, lui aussi, quelques insultes à la volée ou de donner une bonne correction à ceux qui le harcèlent. Cette attitude agressive pourrait, dès cet instant, dominer sa journée entière. Mais il sait qu'il peut aussi simplement se repentir et retrouver la sérénité. Sensible à la voix de sa conscience, il fait le bon choix, si bien que sa matinée, quoique chargée, est vécue dans la lumière. Ses relations, comme son travail, en bénéficient. Rien à signaler jusqu'au milieu d'après-midi, où l'apparition à l'atelier de la pin-up de service déclenche une joute verbale et compétitive, digne de la dernière saga sentimentale télévisée. L'ambiance dégénère. Un collègue en profite pour faire des reproches pour le moins contestables à Freddy, qui est bien tenté de répondre du tac au tac. D'autant que la jeune fille ne le laisse pas de marbre. Il sait cependant que ce camarade a plus besoin d'une réponse avenante que d'une remontrance. Il refuse d'entrer dans la danse des jeunes coqs et l'incident ne fait pas de victime. Ce soir, Freddy est libre. Il apprécie le repas pris en famille quand, soudain, sans raison apparente, son plus jeune frère hurle et lui envoie un coup de pied sur le tibia. Chacun s'en mêle et un débat familial houleux s'ensuit. Freddy se souvient des réactions brutales qui le caractérisaient il y a peu de temps encore et attristait son entourage comme lui-même. Cette fois, malgré la douleur réelle, il reste sur le chemin étroit du disciple. À présent, il regarde une émission de variété. Le début est délassant, mais la fin fade et vulgaire. En allant se coucher, il comprend qu'il a gaspillé une précieuse heure de sommeil ou de scène détente. Il le confesse à Dieu et saisit son pardon avant de s'endormir. Dans cette journée ordinaire, où tant d'aspects sont passés sous silence, j'ai seulement voulu faire remarquer ceci. Freddy aurait pu la vivre avec une conscience trouble. Il a fauté à deux reprises, mais s'est relevé pour continuer dans la lumière. Il est aussi sorti vainqueur de plusieurs tentations. Ce quotidien banal est le reflet de milliers d'autres gagnés ou gaspillés. Gagnés pour l'éternité, car vécus selon les valeurs du royaume de Dieu. Ou gaspillés, car à la solde du péché, de la culpabilité et des ténèbres. Si Freddy veille sur son cœur plus que sur toute autre chose et se laisse conduire par l'esprit dans les petits et les grands événements, le bilan de son année ne sera pas le péché et la culpabilité, mais la sainteté et la liberté. Freddy n'est pas un gars exceptionnel, mais il a un Seigneur puissant qui lui a tout donné pour penser et agir comme un fils de Dieu. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Psaume 23, verset 6a. Retenons deux choses encore. Apprendre n'est pas un péché. Un bon disciple progresse à la lumière de ce qu'il saisit. Un enfant connaît une croissance à tout niveau. Jésus lui-même a appris l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. Et quand il nous demande d'être parfait comme son Père, il ne nous demande pas d'être Dieu. Exiger l'impossible nous condamnerait, de fait, à pécher à chaque instant. Notre Seigneur s'attend à ce que nous marchions à la lumière que nous avons reçue, comme notre Père lui-même marche dans la parfaite lumière. La tentation n'est pas un péché. C'est le choix de nourrir la tentation qui nous y entraîne. Satan aime nous persuader que nous avons péché alors que nous avons simplement été tentés. Jésus, notre modèle, a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Il peut compatir lorsque nous chutons. Il peut aussi et surtout nous préserver de la chute lorsque nous l'invoquons. Vous le comprenez sans doute, l'objectif de ce chapitre n'est pas de vous donner un bon moment de lecture, mais de vous influencer pour le restant de vos jours. Prenez à cet instant la courageuse décision de passer à la pratique. Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter votre réflexion pour saisir le pardon de Dieu, éduquer votre conscience, résister à l'accusateur, marcher dans la sainteté, et la manière dont votre amitié avec Dieu progresse alors que vous êtes à l'aise devant lui.